C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Ça va faire bientôt 4 ans que le petit Cassius, qui avait 6 mois à cette époque, est mort dans la voiture de la famille parce que son père, qui devait aller le reconduire à la garderie, l'a oublié. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'on a découvert le corps de l'enfant. Donc, ça va faire bientôt 4 ans. La mère Anaïs Perlot souligne cette journée à venir par cette espèce de rappel qu'on doit faire toujours quand il y a des drames comme celui-là. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir dans les véhicules, par exemple, des systèmes de détection, qu'une alarme sonne s'il y a, par exemple, présence de quelqu'un sur la banquette arrière? Pour avoir interviewé il y a quelques années le père qui avait oublié son enfant, changement de routine, pense qu'il est allé le reconduire à la garderie, puis finalement l'oublie dans le véhicule. On avait également souligné aussi, puis des coronaires qui font ce type de recommandations. Madame Perlot est avec nous ce matin. Bonjour, Madame Perlot.
Oui, bonjour, Paul. Merci de me recevoir.
Madame Perlot, c'est important pour vous de parler puis de souligner qu'il faut faire des changements dans les règles de Transport Canada pour justement s'assurer qu'il y ait des dispositifs dans l'ensemble des véhicules.
Absolument. Je pense que ces dernières années, la technologie nous a beaucoup aidés. Beaucoup de belles choses ont été développées et la sécurité est primordiale pour nous tous. Et même dans les véhicules, beaucoup de choses ont été faites, les caméras pour le recul. Et je pense qu'il serait temps de vraiment se pencher sur des mesures qui pourraient être prises pour éviter ce genre de drame à l'avenir, effectivement.
Il y a eu, je le disais, des recommandations de coronaires qui ont enquêté sur des cas comme le vôtre, mais malheureusement, c'est comme s'il n'y avait pas de suite rapide à ça.
C'est ça. C'est peut-être parce que ça concerne peu de décès de bébés par an, mais un décès d'un bébé, c'est un drame pour tellement de personnes. Je souhaite à personne ce que j'ai vécu, c'est horrible, c'est affreux. Et aujourd'hui, je pense qu'en tant que société, avec les applications qu'on a, les téléphones intelligents qu'on a, on a de quoi trouver des solutions pratiques pour pallier à ça. Et je vis dans la hantise qu'un nouveau drame arrive et que rien n'ait été fait entre-temps.
Quand j'ai vu l'article dans la presse ce matin, je me suis rappelé le cas de ce père de Saint-Jérôme, mais je me suis rappelé de cette date-là dans Griffintown, un CPE, et que c'était pratiquement la même histoire qui s'était passée. Votre conjoint, donc, qui avait oublié l'enfant. Si je comprends, à l'époque, il disait quoi? Qu'il était fatigué, qu'il y avait un changement dans sa routine?
Oui, c'est ça. Après, effectivement, la fatigue est une chose. Quel parent d'un petit enfant, voire de plusieurs enfants, n'est pas fatigué? Ça peut être une explication pour soi-même, mais je ne pense pas que ça soit quoi que ce soit qui nous décharge de notre responsabilité. Si on est fatigué, on doit trouver un moyen de pallier à cette fatigue. En tout cas, on doit trouver un moyen, si on l'est trop et qu'on ne se sent pas apte, pas capable, à trouver des solutions, parce que c'est notre responsabilité de parents, surtout d'un tout petit enfant complètement... et qui n'a aucun moyen de subvenir à quoi que ce soit. Et c'est à nous, en tant que parents, de s'assurer qu'on est toujours capable.
Quand vous avez su ce qui s'était passé, non seulement que votre fils était décédé, mais les circonstances, on comprend le drame, on comprend ce qui vous arrive, mais en même temps, c'est une colère contre le père.
C'est ça. Au départ, le choc du deuil m'a pas permis de prendre une marche supplémentaire vers l'horreur. J'ai essayé de me raccrocher à la vie pour ma fille, à la survie. Et dans ces cas-là, c'est difficile de se poser des questions, mais des éléments extérieurs, petit à petit, au fil des mois, au fil du temps, m'ont empêché de complètement me dire oui, c'est un accident. Des doutes trop forts par rapport à certains événements m'empêchent, si vous voulez, de totalement accepter cette thèse. Et au-delà de ça, je ne pense pas qu'on peut dire qu'oublier est un accident. Pour moi, un accident, c'est quelque chose où il y a un élément extérieur qui se produit qu'on ne peut pas contrôler là. Tandis que si on se dit en tant que parent, oh, j'ai oublié, pour moi, ce n'est pas une justification suffisante.
Quels sont les faits qui vous tourmentent? Quels sont les faits là, avec lesquels vous dites on aurait dû aller plus loin?
J'ai eu cette sensation que l'enquête a été extrêmement rapide, là. C'était le week-end de la Saint-Jean, donc on peut enlever déjà plusieurs jours. Et qu'en une semaine, ça a été classé comme accident, sachant que j'ai jamais été contactée à ce moment-là par le DPCP, par la couronne, pour m'expliquer pourquoi des poursuites ou pourquoi pas de poursuites. Quand j'ai ensuite cherché à avoir plus d'explications, à accéder au dossier de l'enquête, et ça fait plusieurs années, je me heurte à un mur. J'ai déposé une demande d'accès à l'information en janvier de cette année, officiellement. Normalement, ils ont 30 jours pour me répondre et ben, j'attends toujours.
Le DPCP n'a pas porté d'accusation contre le père de l'enfant. Vous pouvez déposer ce qu'on appelle une plainte privée. Est-ce qu'elle sera acceptée? C'est autre chose. Donc, avez-vous l'intention de déposer cette plainte contre votre ex-conjoint?
J'y songe. C'est pas évident comme démarche. C'est difficile. Je le dois à mon fils. Je dois la vérité à mon fils. Après, dans quelles circonstances est-ce qu'on a toujours envie d'aller jusque-là? C'est pas le cas. Je suis pas dans une vengeance aveugle. Je cherche des réponses. Je cherche la vérité. Est-ce que je l'aurai un jour? Je sais pas. Aujourd'hui, il y a deux combats en parallèle. Celui de permettre peut-être que des vies soient sauvées et que ce genre de drame n'atteigne pas d'autres parents. Et de l'autre, qu'on m'apporte la lumière sur le pourquoi des non-poursuites. Mais effectivement, il y a trop d'éléments probants qui empêchent à ce qu'on, à mes yeux, classe en accident, oui.
Je me souvenais tantôt de ce père de Saint-Jérôme, mais dans l'enquête, puis je vous pose la question, si les policiers vous ont questionné là-dessus, on essayait de voir au-delà de ce qui est arrivé, est-ce que c'est un père qui prenait ses responsabilités, c'est quelqu'un qui s'occupait bien de ses enfants, quel était le contexte familial, est-ce que les policiers vous ont interrogé là-dessus?
Oui, absolument. Quelques jours après, on a été convoqués par les enquêtrices qu'on a rencontrées. Je leur ai dit que c'était un papa, un bon papa avec ses enfants. J'ai jamais remis ça en question. On avait une belle dynamique familiale, réellement. Mais c'est sûr qu'en tant que personne, c'était quelqu'un qui avait du mal à accepter ses responsabilités et surtout à prendre soin de lui en termes de fatigue, de réellement pouvoir se dire, OK, est-ce que je suis capable ou pas? Et les fois où, effectivement, je pouvais remettre en cause sa capacité, dû à de la fatigue ou autre, toujours sur la défensive de non, je suis capable, mais il y a un moment donné, il faut être aussi réaliste de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Et je crois qu'en tant que parent, c'est ça qui est important. C'est si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres.
Donc, ce matin-là, c'est lui qui devait aller reconduire les enfants à l'école et à la garderie.
Effectivement, mon fils commençait l'adaptation à la garderie et toutes les autres fois, pratiquement, c'est moi qui l'y déposais puis qui allais le chercher. Et cette semaine-là, effectivement, on habitait très loin de la garderie, du plateau à Griffintown, c'est pas la porte à côté, et de la garderie à son travail, il y a comme 5 minutes. Donc oui, la veille et même l'avant-veille, on s'était mis d'accord pour que ce matin-là, dernière journée d'école de ma fille, ce soit lui qui dépose les deux enfants, que je puisse me reposer moi aussi. Et voilà.
Et lui, quelle a été son attitude devant le drame?
Fermé. Un grand silence. Une incapacité de communiquer. Moi, j'ai mis, et les autres aussi, ça sur le cause du traumatisme, et j'ai pris le temps de lui donner le temps, mais rien n'a changé. Du silence et de la défensive, un manque clair de transparence qui n'a pas aidé. D'autres événements familiaux compliqués ont fait que ça m'a vraiment remis en question sur ses capacités, sur des choses qui avaient même été cachées. Ça fait un grand mélange de beaucoup de choses qui aujourd'hui ne me permettent pas d'accepter la thèse de l'accident.
Madame Perlot, merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Bon courage. Et on espère que ce message sera entendu et aussi à des parents d'être vigilants. Une distraction, oui, mais en même temps, s'assurer que quand on quitte un véhicule, il n'y a personne à l'intérieur. Bon courage, madame.
Merci, bonne journée, au revoir.
Au revoir. Anaïs Perlot, la mère de Cassius, qui malheureusement est décédée 6 mois seulement. Et je vous le dis, on faisait le tour, je parlais avec Bénédicte tantôt, on a tous souvenir de cet événement dans Griffintown. Et elle me disait, Bénédicte, qui était sur place, que les policiers, on en voit des policiers bouleversés lors de certaines scènes de crime ou certains drames, que c'était intenable. Des policiers qui avaient vu l'enfant, qui avaient tenté de sauver l'enfant, puis qui étaient trop tard. Maintenant, je vais vous faire entendre le père de ce bébé, cet homme qui avait oublié son enfant lui aussi, puis les scénarios se ressemblent, c'est-à-dire changement de routine, plusieurs arrêts à faire, se rend compte finalement que plus tard, qu'il a oublié l'enfant dans le véhicule. Puis je me souviens, c'était une journée chaude, puis on arrive là, on est au mois de juin, dans des journées très chaudes, l'enfant est dans le véhicule, il pense qu'il est allé le reconduire à la garderie, et il l'a pas fait, puis il est retourné travailler à l'intérieur. Puis c'est quand il est revenu à la garderie qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié le bébé à l'intérieur dans l'auto. Et à ce moment-là, puis je vous mets dans le contexte, là, beaucoup de gens le critiquaient sur les réseaux sociaux, le traitaient de tous les noms en disant que ça se pouvait pas. Je vous fais entendre un court extrait, vraiment pas très long, mais son message en quelque sorte, là, parce qu'il a vécu un drame horrible, la douleur, mais il tenait à dire ceci.
Prendre pour acquis que ton cerveau est parfait puis que tu ne peux pas oublier tes enfants. Non, gars, ça m'est arrivé. Au funérail du tout-petit, la quantité de gens qui l'ont dit, qui l'ont oublié, puis pas juste des parents. J'ai entendu... Ça m'a pas été dit à moi directement, mais dans mes proches, il y a même des grands-parents qui ont avoué avoir oublié leurs enfants dans l'auto. Ça peut arriver à n'importe qui.
Donc, quand il fait chaud, puis en tout temps même, juste s'assurer qu'il n'y a personne dans le véhicule. Et ça peut peut-être arriver une distraction, puis on est sûr que... Puis je suis convaincu que je suis allé le reconduire, puis je ne suis pas allé. Puis heureusement, ça n'arrive pas souvent. Heureusement. Mais ça peut arriver. On va faire la pause.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Hier matin, Anaïs Perlot était avec nous. Anaïs Perlot est la mère de Cassius, c'est un bébé de 6 mois, qui est mort dans la voiture familiale en 2018. Le père qui allait reconduire l'enfant à la garderie l'a oublié. Madame Perlot nous disait que le père était fatigué, distraction, un oubli. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'on a retrouvé l'enfant, qui était malheureusement décédé. Madame Perlot prend la parole parce que l'événement date d'il y a 4 ans. Elle veut que Transport Canada autorise des équipements dans les voitures qui feraient en sorte qu'on puisse alerter le parent qui conduit, par exemple, de la présence d'un enfant dans le véhicule. Puis il y a des gens qui me disaient qu'on devait aussi encadrer davantage l'installation des sièges de bébés dans les voitures pour qu'on puisse voir l'enfant par le rétroviseur. Et aussi... Elle nous a dit qu'elle envisage peut-être de déposer une plainte au privé pour que des accusations criminelles soient déposées contre le père de Cassius. Louis-Philippe est avec nous. Louis-Philippe a entendu l'entrevue hier matin, puis il a été évidemment touché parce que Louis-Philippe, les gens vont sans doute s'en souvenir, c'est le père de Jacob. Jacob qui est décédé, c'était au mois d'août 2016. Et c'est exactement dans le même type de circonstances. Louis-Philippe allait reconduire les enfants et a oublié son fils dans le véhicule. Louis-Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous a fait d'abord d'entendre le témoignage de Anaïs hier matin au sujet des circonstances de la mort de son enfant?
Bien, comme que ça m'avait frappé la journée même, le 22 juin, quand on m'avait donné la nouvelle, ben, c'est sûr que ça me replonge dans ma situation à moi qui est vraiment un copier-coller de qu'est-ce qui est arrivé. Je me rappelle un peu des reportages à l'époque. J'avais l'impression qu'il avait juste pris mon texte puis il avait changé certaines dates. C'était vraiment... Il était allé à la garderie, il s'était fait dire « Ah non, ton enfant n'est pas venu aujourd'hui. » Il a allumé, il est allé le chercher dans l'auto. Puis après ça, le reste a déboulé. C'est sûr que comme elle, quand que la saison chaude commence, j'ai toujours un peu d'anxiété, toujours un stress. J'espère qu'il n'y aura pas un autre cas encore.
C'est... comme on dit, copier-coller, parce que c'est le parcours, c'est-à-dire d'aller conduire les enfants, d'aller à la garderie, c'est pareil. Mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'en termes de préoccupation, d'être fatigué, d'être peut-être pas dans son état normal quand on va reconduire les enfants, ça se ressemble également?
Absolument pas. Dans mon cas, moi, je revenais d'un congé de paternité. On avait passé un mois de vacances en famille merveilleuse. Je peux pas dire que j'étais fatigué. Je peux pas dire que j'étais stressé non plus. Ça faisait juste deux semaines, j'avais recommencé à travailler. Par contre, ce qui était déstabilisant, c'est que j'étais en partie en travail de la maison, en partie à un emploi au centre-ville et en partie à un autre endroit. Fait que j'avais comme pas trois bureaux, mais j'étais comme en instance de changement dans la même entreprise. Il y a aussi, c'est que Jacob, j'avais pas été le porter très souvent à la garderie encore. Vu que ma conjointe était en congé de maternité, c'était principalement elle, puis la garderie était vraiment pas loin. C'est principalement elle qui allait la porter. Là, on commençait à réintroduire, parce que moi, j'aime ça aller porter mes enfants à la garderie, rencontrer des éducatrices, voir mon enfant dans son milieu de vie. C'est super intéressant, mais c'était relativement nouveau, cette routine-là, à ce moment-là. Puis, il y avait aussi mes deux grands. Il fallait que j'aille les porter au service de garde, pas au service de garde, mais au camp de jour. Fait que le camp, puis moi, dans mon cas, moi, le camp de jour avait changé d'endroit parce que là, c'était le début du cégep, c'était plus au cégep, c'était à Cap Jeunesse. Il y a des circonstances qui sont différentes. J'ai fait plus d'arrêts ce matin-là que la normale ou que je m'attendais.
Anaïs a dit hier un oubli, OK, mais en même temps, quand c'est ton enfant que tu oublies, ça se peut pas. Ça ne se peut pas qu'on oublie son enfant dans le véhicule. Quand on s'est vu pour la première fois il y a quelques années, je vous ai posé la même question. Je vous la pose aujourd'hui aussi.
Bien, je ne suis pas d'accord. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec son affirmation, surtout que c'est comment je pourrais dire? On ne peut pas comparer un enfant avec un cellulaire, des clés. C'est pas un objet. Il y a aussi, c'est que ton cellulaire, tu ne l'oublies pas, tu l'as déposé sur une table. Un enfant, quand tu as un circuit en auto connu où ce que tu tombes sur le pilote automatique, n'importe quoi peut te faire changer ton mindset. Je donne un exemple. Je fais une hypothèse ici. Mettons, ce père-là, il partait du plateau vers Griffintown. Il y a eu beaucoup de lumière. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a passé sur une lumière rouge, qui a failli le frapper. Ça l'a surpris. Puis à ce moment-là, il a peut-être perdu fixe sur le fait qu'il allait porter son enfant. C'était pas commun qu'il allait le porter. Il allait au travail, normalement. Là, il fallait qu'il aille au travail et porter l'enfant. C'est un changement de routine. Je dis pas que... Je connais pas leur situation. Fait que c'est possible qu'il y ait eu une négligence, mais en même temps, de ce que moi, j'entends, de ce que j'ai vu, j'ai lu là-dessus, c'est juste... Tu peux oublier ton enfant en allant le porter à la garderie. On est trois au Québec à qui c'est arrivé. Il y en a plusieurs que ça arrive aux États-Unis à chaque année et au Canada. Malheureusement, ça peut arriver. C'est parce que le monde traîne pour acquis. Quand je lis des commentaires dire on est des parents responsables, ça arrive pas, ben t'es probablement le prochain parce que tu prends pour acquis que t'es parfait, que ton cerveau oubliera jamais ton enfant. Puis c'est en lâchant, en perdant le focus là-dessus qu'on fait une gaffe.
Louis-Philippe, il y a un autre angle aussi, parce qu'elle dit « Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu d'accusation au criminel. » J'aimerais que vous racontiez votre expérience avec les enquêteurs. Est-ce que ça a été une rencontre facile? Est-ce qu'ils vous ont tassé dans le coin? Comment ça s'est passé?
Non, ils m'ont pas tassé dans le coin. Mais ils m'ont pas nécessairement non plus mis la vie facile. Moi, quand c'est arrivé, je me rappelle, là, il était 4h30 de l'après-midi quand j'ai trouvé Jacob. Après ça, on est allé à l'hôpital. On nous a laissé dans une salle avec le tout petit pour faire nos derniers bercements, nos derniers adieux au tout petit. J'avais deux policières avec moi en continu. Ils étaient là probablement pour empêcher que je fasse une connerie, probablement. Mais après ça, les inspecteurs sont venus me chercher. Ils m'ont dit que j'étais en état d'arrestation, qu'ils allaient m'interroger. Là, ils m'ont amené dans une salle blanche là, au poste de police de Saint-Jérôme. C'est assez intimidant. Pas que les policiers étaient intimidants, faut qu'on me comprenne. Les policiers étaient quand même courtois, mais ils posaient beaucoup de questions sous plusieurs angles différents. Je peux pas me rappeler complètement. J'ai vraiment un blanc de mémoire de cette époque-là, mais c'était très traumatisant pour moi parce que j'avais... perdu mon fils. Je sais que je me fais... Parce que moi, j'avais le gars de 2003 en tête. L'autre monsieur avant moi qui l'avait oublié. Puis lui, il avait été arrêté. Puis lui, il avait été poursuivi. Fait que moi, dans ma tête, je m'attendais à ce qu'il m'arrive exactement la même chose. Mais les policiers, ils m'ont beaucoup posé de questions. Ma conjointe aussi, ils ont posé des questions. Ils m'ont ramené chez nous vers 4 heures du matin. Puis j'ai plus jamais entendu parler d'eux autres par après. Ça a pris 3 mois. Le DPCP ou le coroner avait appelé ma conjointe pour dire « On veut vous rencontrer pour vous parler du verdict, de la décision. Mm-hmm. » Ça, c'est différent de madame. Et ils ont expliqué qu'ils n'allaient pas me poursuivre. Moi et ma conjointe, on est encore ensemble. Puis à cette époque-là, elle ne croyait pas plus que c'était volontaire, mon affaire, ou que c'était de la négligence. Mais ils ont quand même expliqué. Mais c'est un processus qui est, pour la personne qu'il vit, assez traumatisante. Mais en même temps nécessaire, parce que il faut vraiment que les policiers s'assurent que c'était pas de la négligence ou un volontaire. Ça aurait pu être volontaire aussi, mais il faut que les policiers s'assurent de ça. Puis dans l'état mental que j'étais à ce moment-là, je ne vois pas, si mettons je projette sur le monsieur à qui c'est arrivé en 2018, je vois pas comment il peut réussir à bullshitter un policier là-dessus. T'es pas en état mental, rationnel pour être capable de mentir et de maintenir tes mensonges, je vois pas comment ça peut être possible.
Quand on a fait l'entrevue ensemble, je me souviens très bien, j'allais dire, des réflexions que vous avez partagées avec moi puis avec les auditeurs sur l'état dans lequel vous étiez parce que vous étiez dur avec vous-même. Je me souviens, vous m'avez dit « Je suis un monstre, ça n'a pas de bon sens ce qui est arrivé, je mérite pas d'avoir d'enfant. » Vous m'avez fait la liste de ces états d'âme.
Oui, c'est vrai. C'est plus le cas aujourd'hui. J'ai probablement été le dernier dans mon entourage à comprendre que c'était un accident. La culpabilité était très, 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 très forte. Mais j'ai eu beaucoup de soutien. Il y a aussi les médias, vous m'avez, d'une certaine façon, vous m'avez aidé là-dessus parce que j'étais un monstre, pas juste pour moi. Le monde m'envoyait toutes sortes de bêtises. Puis après vous avoir parlé, ça a commencé à changer. Il y a aussi eu des chroniques avec Patrick Lagacé. Mm-hmm. Et tranquillement, pas vite, j'ai vu un changement d'attitude à chaque fois que ça passait. Il y avait moins de bêtises qui se disaient là-dessus. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut faire attention. Un oubli, il faut s'assurer que c'est un oubli. Puis ce n'est pas une excuse pour mieux me sentir. Ça faisait pas le fait que je l'aie oublié, c'était pas pour moi une excuse. Vous vous rappelez comment j'étais? J'étais détruit quand même. C'était pas pour me sentir mieux. C'est pas une excuse d'oublier. C'est un fait et c'est un accident. Dans les circonstances, c'était un accident.
Depuis, vous avez eu un autre enfant, une petite fille.
Oui.
Elle a quel âge? 4 ans maintenant?
Oui, elle a 4 ans.
Comment elle va?
Ça va bien. Ça va, c'est sûr que c'est un enfant hyper sensible parce que dans le ventre de maman, ben, elle était dans le ventre d'une maman endeuillée. Nous, on l'appelle notre petit bébé arc-en-ciel. Elle remplace absolument pas Jacob. C'est pas la raison quoi qu'on ait une petite fille par après. Par contre, elle nous a beaucoup aidé à passer des étapes qu'on n'avait pas vécues avec Jacob. Jacob marchait pas encore. Il se traînait les fesses. Il parlait pas beaucoup. Ben, il parlait pas pantoute, les bébés, mais enfin, toutes les étapes qu'Alice a passées par la suite nous ont aidé à passer des étapes. Je déteste l'expression « faire son deuil ». Tu ne feras jamais un deuil. Tu vas être en deuil toute ta vie. Jusqu'à ma mort, je vais être en deuil. Ma conjointe, la même chose. Mais par contre, Alice nous a permis, à certaines étapes, de voir Jacob serait peut-être où présentement? Est-ce qu'il serait un bon frère? Est-ce qu'il serait... Ça nous a permis de vivre Jacob un peu à travers elle.
Et votre conjointe est toujours avec vous?
Oui.
Mais c'est parce que ça peut être dur quand même pour un couple. Il y a eu des moments, je sais, qui ont été plus difficiles. Là.
Oui, c'est sûr. C'est pas évident. Puis moi, j'étais convaincu que je perdais tout. Je pensais que je perdais ma blonde. Je pensais que je perdais mes enfants. Moi, j'étais sûr que j'allais en prison. Tout ça... Dans le choc post-traumatique que j'ai eu, c'était toutes les choses qui me passaient par la tête puis que j'étais convaincu. Mais ma conjointe a été plus vite que moi pour comprendre que c'était un accident. C'est sûr que ça a été dur. Le fait de vouloir un autre enfant aussi, ça n'a pas été une décision facile. Pour une femme, porter un enfant déjà en partant, c'est quelque chose. Mais en plus, avec les émotions dans le tapis, le deuil qui se travaille, c'est vraiment pas évident. Fait que ça n'a pas été une décision facile. La grossesse a été la pire des quatre. L'accouchement aussi a été la pire des quatre. On regrette pas d'avoir Alice. C'est pas ça que je dis. C'est juste que ça a été ça a été moins facile qu'avec les autres enfants.
Louis-Philippe, merci beaucoup d'avoir pris ce moment-là avec nous ce matin.
Merci.
Merci. Bonne journée. Louis-Philippe, c'est le père de Jacob, et c'est sûr que les propos hier de Mme Perlot, qu'il a entendu, puis a pris contact avec moi après avoir écouté l'entrevue, ça vient leur plonger dans tout ça. Il n'a qu'à entendre une nouvelle. Et heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais quand même. C'était au mois d'août 2016, donc à Saint-Jérôme. Et le parcours, c'est-à-dire voir conduire les enfants à la garderie. Dans son cas, les deux enfants au camp de jour, il y avait plusieurs changements d'itinéraire. Et il s'est rendu compte seulement à la fin de la journée qu'il avait oublié Jacob dans la voiture. Et malheureusement, donc, Jacob était décédé. Puis il me disait aussi dans le courriel qu'il est parfaitement d'accord avec l'idée de Mme Perlot qu'on procède, ou en tout cas qu'on puisse installer dans les véhicules des systèmes de détection une fois que le moteur est arrêté pour être bien certain qu'il n'y a pas un enfant qui reste sur la banquette arrière dans son siège. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a rappelé que ça peut arriver. Ça peut arriver, un oubli. C'est pas une négligence, c'est pas un acte criminel, il n'a pas été accusé. Il paye toute sa vie, ça l'habite encore, c'est sûr, mais en même temps, c'est un oubli qui est tragique, mais ça demeure un oubli.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
C'était la présentation hier du bilan DPJ pour 2021-2022. C'est une augmentation importante des signalements. Pas tellement des cas retenus, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé la main, qui ont mis en évidence des problèmes, beaucoup de cas d'anxiété. On sait que la période de la pandémie a été extrêmement difficile. Puis un peu plus tôt cette semaine, on apprenait qu'environ le tiers des jeunes qui passent par la DPJ ont également ce qu'on appelle un épisode d'itinérance, donc ils se retrouvent un peu à la rue sans abri. C'est l'occasion ce matin pour aller un peu plus sur le terrain avec deux invités que je vous présente. D'abord, Savannah est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
C'est une jeune adulte et elle est passée à travers les méandres de la DPJ. Et Charles Prudhomme, lui, est depuis 24 ans à la DPJ. Bonjour.
Bonjour.
Savannah, je commence avec toi. Comment tu t'es retrouvée à la DPJ? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie?
En 2013, donc j'avais 11 ans, j'ai eu un accident de voiture où est-ce que ma mère était présente et elle en est décédée. Donc par la suite, c'est sûr que, étant donné que j'étais un enfant, puis que mon père n'était pas nécessairement présent dans ma vie à ce moment-là, j'ai dû connaître une famille d'accueil qui s'est enchaînée avec autre famille d'accueil, centre jeunesse et puis ainsi de suite.
Juste avant, pourquoi la première famille d'accueil, ça n'a pas fonctionné, que tu t'es retrouvée dans une deuxième, puis après ça, au centre jeunesse?
En fait, la première famille d'accueil, c'est que c'était une période d'évaluation. Donc, on m'a mis en famille d'accueil pour évaluer c'est quoi les besoins d'une jeune fille de 11 ans qui vient de perdre sa mère, puis tout ce qui allait avec, étant donné que j'avais des petits problèmes TDAH et opposition à ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai eu une première famille d'accueil qui était la période d'évaluation de 30 jours. Par la suite, ils m'ont mis dans une famille d'accueil qui pensait être la bonne famille d'accueil pour moi avec l'évaluation de mes besoins, qui par la suite s'est avéré que j'avais un petit peu... Je vivais un deuil à ce moment-là, donc l'opposition, là, je ne voulais pas, je ne me sentais pas à ma place, ce n'était pas ma famille.
Comment tu te sentais? C'est ça que j'aimerais savoir.
Je ne me sentais pas du tout à ma place, en fait. C'est que j'ai eu l'impression qu'on m'a pris de mon milieu où j'étais dans ma petite ouate, dans mes choses à moi, puis me déposer dans une place où est-ce que j'étais un petit peu forcée d'être. Donc, bonjour, nous ici, on est une famille d'accueil, puis c'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc, c'était un petit peu difficile pour moi de l'adaptation. Déjà, je viens de perdre ma mère. J'avais eu un accident de voiture. J'avais des séquelles physiques, donc des blessures. J'avais besoin d'adaptation physique. C'est ça, d'aller me déposer dans une place où est-ce qu'il y a d'autres jeunes, il y a d'autres gens qui vivent là-bas, puis que moi, je dois m'adapter à ce climat, excusez-moi. C'est ça qui a été vraiment difficile pour moi, vraiment l'adaptation à tout ça, de... tout en même temps. Perdre ma mère, perdre ma famille, voir moins de monde, là, ça fait beaucoup de chicanes dans ma famille aussi. Fait que c'est vraiment tout ça qui était...
Ça fait beaucoup de chicanes dans ta famille?
Oui, c'est ça. Ben, étant donné que, dans le fond, là, il y a des gens qui voulaient m'avoir chez eux. OK, ben, check, toi, t'es pas adapté pour l'avoir chez vous. OK, ben, toi non plus. Donc, c'est vraiment... Ça fait comme
toi,
beaucoup...
Toi, t'es prise là, dans un tourbillon familial. Là, puis,
oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, ça a vraiment été quelque chose qui était une situation stressante, puis anormale. Et évidemment, je viens de perdre ma mère en plus, donc ça a vraiment amené beaucoup de problèmes autour de moi. Ils ont essayé de me retirer de ce milieu-là pour me mettre dans une place qui était un petit peu plus posée. Sauf que ça revenait un petit peu au même, mais avec d'autres problèmes.
Comment tu t'es retrouvée au centre jeunesse?
En fait, c'est ça. C'est que j'avais commencé à avoir un petit peu plus de problèmes d'opposition. Donc, je m'opposais à tout. Savannah, on va manger aujourd'hui. Non, moi, je mange pas. On va aller à l'épicerie. Non, moi, je bouge pas de mon lit. Je veux pas sortir. Je veux juste avoir ma petite bulle. Je voulais pas sortir de ma chambre. Je voulais absolument rien faire. Puis, c'est ça. À 13 ans, après deux familles d'accueil et un petit séjour en centre jeunesse pour une évaluation après la deuxième famille, j'ai commencé à faire quelques petites fugues par-ci, par-là. Au début, c'est sûr que c'était des petites fugues de 2 heures, 3 heures, 4 heures, où on comprend le principe. Mm-hmm. Qui, par la suite, c'est vraiment... j'ai commencé à connaître des gens un petit peu moins fréquentables. Puis là, ça s'est vraiment transféré à avoir des problèmes de comportement qui mettaient ma sécurité en danger. Fait que là, c'est ça. C'était
quand
des...
vous dites votre sécurité en danger, qu'est-ce que ça veut dire? Clairement.
En fait, j'ai 13 ans, je suis dans la rue, je passe une nuit dans la rue, j'ai pas de logis, j'ai pas de place où aller, donc c'est là que ça devient dangereux. On
puis des mauvaises fréquentations.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, des personnes qui sont pas qui sont pas super positives, qui n'ont pas nécessairement aussi eu leur vécu facile. Donc là, c'est que, tu sais, tous ces mindings négatifs-là ensemble font en sorte que ça aide pas à ma cause. Puis là, ben là, je fuguais de plus en plus longtemps. J'avais eu de la petite consommation par-ci, par-là. Là, je retournais au centre jeunesse. OK, Savannah, là, on va faire une évaluation de ce
là,
qui s'est
passé. Là, je vais t'arrêter, puis je vais parler avec Charles Prudhomme.
Mais oui, pas de problème.
Comment on gère ça, un cas comme Savannah, qui clairement, là, est dans une période d'opposition puis de confrontation?
Bien, au départ, ça a été mes collègues en réadaptation interne qui ont eu à accueillir Savannah. Puis c'est toujours le défi de faire l'équilibre entre sa protection, puis assurer justement sa sécurité, puis assurer un développement qui serait le plus optimal, mais aussi de se permettre d'avoir une vie qui se rapproche le plus de la normalité. Puis c'est sûr que c'est un défi. Là, en réadaptation interne, c'est des groupes de 13 jeunes, puis ils ont tous des défis. Avec Savannah, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est retrouvée en unité d'encadrement intensif pour s'assurer qu'elle ne quitte pas et qu'elle ne fuite pas. Et là, ben, à un moment donné, c'est que lorsqu'elle sortait de ces milieux-là et qu'elle retournait dans une unité régulière, elle pouvait quitter pendant des semaines et même des fois des mois. Et pendant ces temps-là, on n'a aucune nouvelle de Savannah. On a une idée de ce qu'elle fait, mais on ne sait même pas où elle est.
Je vous arrête. Qu'est-ce que tu faisais pendant ces périodes-là?
Je faisais plusieurs choses qui sont pas nécessairement positives. Donc, c'est sûr que j'ai connu des milieux peu fréquentables. J'allais parfois voir des gens qui étaient dans des milieux, on peut dire, illégaux. Donc, c'est sûr que ça m'a amené à avoir des comportements qui s'associaient à ces milieux-là.
On va se parler, là. Tu fréquentais des bombes.
Ouais, c'est ça, exactement.
Des bandits, criminels.
Des gens qui étaient pas socialement acceptables. Donc, c'est sûr que ça traînait dans la criminalité on peut aller dans toutes les sphères. Puis, c'est ça. C'est là que ça devenait vraiment un danger pour moi-même et pour ma vie. On s'entend que...
Puis est-ce que c'est parce qu'on te retrouvait ou tu revenais de toi-même au centre?
Non. Je crois que ça arrivait très... Je pense que c'est arrivé très rarement, en fait, que je suis revenue par moi-même. Le pourquoi était que je me sentais vraiment pas à ma place. Peu importe où j'étais pas à ma place. Donc, je me sentais... j'étais trop dans la pièce. Fait que...
Je vais vous entendre là-dessus. Ouais. Le retour au centre après une disparition comme ça, une fugue là, qui dure plusieurs semaines.
Bien, je vais vous parler à partir du moment où moi, j'ai commencé à travailler avec Savannah. À ce moment-là, elle sortait d'encadrement intensif. Elle avait fait un séjour dans un autre centre de jeunesse. Et puis, l'équipe de travail autour de Savannah, on parle d'intervenante sociale, on parle des jeunes de la DPJ, mais aussi la magistrature. À un moment donné, on s'est assis et on a dit, là, il faut offrir à Savannah quelque chose qui va être complètement différent. Ce qu'on veut, c'est de rester en contact avec elle. Parce que si elle quitte comme elle le fait, mais qu'on n'a pas de nouvelles, on ne peut pas l'accompagner à aucun niveau. Et c'est ce qui a été offert à Savannah. On dit, maintenant, là, tu vas avoir une place dans une unité, mais cette place-là, tu n'es pas obligé de l'occuper 7 jours sur 7. Mais en contrepartie, quand tu es à l'extérieur, tu dois garder contact avec nous. Donc, il n'y aura plus de jeu de « on court après toi ». Et ça l'a complètement changé son approche envers les intervenants, puis ça nous a demandé, nous, de travailler différemment beaucoup. Donc, Savannah, on l'a suivi, moi comme éducateur, son intervenante sociale et bien d'autres autour, là, parce qu'il y a un gros réseau qui s'est installé autour de Savannah. On l'a suivi dans toutes ses péripéties. Puis ça, c'est dans plusieurs régions du Québec, puis on allait la chercher, on allait la voir.
Tu te poussais loin, là.
Oui, oui, puis ça, là, on parle juste du Québec, là, mais...
T'es allé ailleurs aussi?
Oui.
Ça lui est arrivé. Okay. Mais dans ce changement de rapport-là, l'idée, c'est de dire, Savannah, on veut que tu reprennes du pouvoir sur ta situation, et notre job à nous autres maintenant, ça va être de t'accompagner, peu importe vers où tu vas. Ma job à moi, ça va être un pouvoir d'influence. Quand tu vas arriver à une intersection, j'aimerais ça que tu t'arrêtes en disant, si je vais à gauche, qu'est-ce qui se passe? Si je vais à droite, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais ça que tu me poses la question. Mais en même temps, si je te dis que je pense que tu devrais aller à gauche, si tu vas à droite, je vais être là quand même. Et ça a vraiment changé notre rapport d'intervenant à jeunes. Mais c'est toute une équipe. Là. Savannah a cette capacité-là de se monter un réseau. Autant lorsqu'elle était dans la rue et qu'elle était dans le... undercover, parce qu'elle disparaissait complètement, même des réseaux sociaux. Là. Elle avait un réseau qui n'était pas super.
On a compris
mais
ça.
Mais elle a su utiliser ses forces pour se monter un réseau positif autour d'elle, qui est encore là aujourd'hui. Là.
Parce que vous avez fait avec elle la transition vers la vie d'adulte.
Voilà, c'est le programme dans lequel je travaille, transition à la vie adulte.
OK. Je veux que tu me parles un peu, puis je veux pas de détails. Là. As-tu l'impression que ces passages-là, là, ces fugues-là, puis ces fréquentations douteuses, t'aurais pu là, vraiment déraper complètement, puis... avoir des problèmes de consommation oui. de drogue solide, là, aurais-tu pu t'enfoncer?
Oui, en fait, ça, c'est sûr, parce que selon moi, quand tu es dans ces milieux-là, c'est facile de glisser. Justement, j'ai côtoyé des gens qui, eux, ont plus que glissé, on peut dire. Puis, je pense que justement, quand Charles est entré dans ma vie puis qu'ils ont trouvé une nouvelle façon de m'accompagner, de pouvoir me montrer un petit peu et m'accompagner à moi ce que je voulais, en fait, c'est « Savannah, tu veux quoi? Nous, on va aller avec toi. » Là, je me suis sentie un petit peu plus écoutée, puis j'étais ouverte à recevoir de l'aide. Donc, c'est sûr que ça aurait pu glisser, que ce soit dans la consommation, dans les milieux du travail du sexe. Et, on va s'entendre que dans ces milieux criminels-là que j'inclus, il y a eu un petit peu de ça, qu'il y a des gens que j'ai côtoyés dans ces milieux-là. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est facile de glisser. Très, très facile parce qu'en fait, quand tu es dans ce minding de ce mode de vie-là, en fait, c'est que tu te dis toujours ça ne peut pas être plus pire que ça. Ouais. Ça peut pas être plus pire.
As-tu trouvé ça dur, sortir de ce
oui,
monde-là?
Oui, ça n'a vraiment pas été facile. Ça a été un travail même jusqu'à aujourd'hui.
Je vais me tourner vers M. Prudhomme. Pas été facile.
Non, ben non, ça n'a pas été facile. On revient à la gestion de risque, la notion de risque. On faisait une approche qui était novatrice avec Savannah. Et novatrice dans le sens où ça se fait un peu partout. Des cas isolés où on travaille différemment. Mais je pense que ça a amené, autant dans le dossier de Savannah que bien d'autres collègues, ça a amené une façon de revoir nos façons de faire puis se mettre à la hauteur de...
J'ai deux questions parce que le temps file. Aujourd'hui, tu as quel âge puis ta vie ressemble à quoi?
Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je suis mariée. J'ai mon logis à moi, donc ça va super bien ma vie. J'ai vraiment, je travaille dans un concessionnaire. J'ai mes petites affaires à moi. Honnêtement, je pourrais dire que j'étais peut-être à 5 sur 100, puis maintenant je suis à peut-être 100 000 % là. Je vais super bien. Puis mon but moi dans la vie, c'est vraiment de redonner à ces personnes-là qui ont où j'ai été à leur place à ce moment-là où j'étais dans la difficulté. Donc un jour, j'aimerais ça pouvoir parler avec une jeune, puis lui donner des conseils en tant que moi, j'ai vécu dans ces milieux-là, dans cette misère-là et dans cette difficulté psychologique.
Je pense qu'il y en a un bon nombre qui t'ont entendu ce matin, en tout cas.
Oui, je suis contente, honnêtement. Ça fait plaisir.
M. Prudhomme, moi, ce que je veux savoir, 24 ans à la DPJ, alors qu'on parle d'un taux de roulement de travailleurs puis de travailleuses qui débarquent, vous, comment ça se fait que ça fait 24 ans puis vous êtes encore là?
En fait, il y a un plaisir au travail, évidemment.
Mais c'est pas facile quand même.
Non, non, c'est ça dur. Reste un travail hyper difficile. Puis là, aujourd'hui, je travaille dans une équipe à l'externe. J'ai des conditions de travail au niveau des horaires qui sont un peu plus normales. Je pense à mes collègues qui sont encore en centre de réadaptation, où là, le taux de roulement est immense, les plus vieux ont tous quitté. Ont quitté pour aller à l'externe comme moi ou dans d'autres missions là, des six. Là. Donc, je pense beaucoup à eux autres parce que effectivement la réadaptation à l'interne, ça reste un grand défi actuellement, le manque de personnel. Puis la même chose au niveau des intervenants sociaux, là, ARH, TS et compagnie, il y a un manque évident. Mais moi, je rencontre des jeunes comme Savannah et puis je lui en parlais dans l'auto en s'en venant. Il y a 20-quelques années, j'ai un chef qui m'a dit, tu sais, la journée où tu vas accepter de mesurer le succès différemment, tu vas en vivre plein au travail. Puis quand je regarde Savannah, puis on se voit encore régulièrement, ben c'est ça le succès. Elle n'a pas pris les chemins que j'aurais aimé, moi, comme père de famille, qu'elle prenne, mais elle a pris les siens. Puis aujourd'hui, ben c'est une jeune femme épanouie. Puis qu'effectivement, le goût de dire, ben comment moi je peux donner un coup de main encore, et elle le fait régulièrement.
Bravo. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin. Savannah, une femme adulte maintenant, épanouie, et Charles Prudhomme, éducateur depuis 24 ans à la DPJ.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Je vais passer tout de suite à Alain, parce qu'on va parler de Formule 1, et je comprends qu'il est assez sollicité aujourd'hui, François oui. Dumontier, parce que il est en ligne avec nous ce matin, et on est vraiment là jeudi, vendredi, samedi, on est dans le jus pour le Grand Prix.
Ouais, effectivement, on peut dire que ça débute officieusement aujourd'hui parce que t'as l'événement porte ouverte à compter de 9h30 ce matin jusqu'à midi de aujourd'hui, mais officiellement là c'est demain, il va y avoir les essais libres et François Dumontier est avec nous comme tu l'as mentionné. François Dumontier, bonjour.
Allô, Alain.
Est-ce que tout est prêt? Parce que ça fait 2 ans là, qu'il n'y a pas eu de Grand Prix. Est-ce que ça a été difficile de repartir la machine?
Non, ça va être difficile, mais en fait, c'est même 3 ans, Alain, le dernier Grand Prix en juin 2019. Non, on n'est pas rouillé. On est très, très, très heureux d'être de retour. Et on va être prêt. Tout est prêt au circuit. Puis comme tu disais tantôt, ben on accueille les premiers visiteurs ce matin, les premiers fans pour la visite de Ligne des Puits.
J'écoutais cette semaine une entrevue que tu as donnée et tu disais que ça a peut-être été le Grand Prix le plus facile à vendre depuis que tu es le président et directeur général de ce Grand Prix.
Oui, c'est vrai. Écoute, on n'a pas vu, on n'a pas vu ça souvent, cet engouement-là. On avait eu le feu vert premier de la santé publique en novembre dernier pour mettre nos billets en vente en décembre. Et lorsqu'on les a mis en vente, je te dirais là, le 16 ou 17 décembre, en 2 heures, tout a été vendu. Et au préalable, parce qu'on avait senti l'engouement, on avait augmenté les tribunes, on a même ajouté des tribunes, et donc ça s'est vendu. J'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière au Grand Prix. Là.
Est-ce que vous savez, ça représente quel pourcentage d'acheteurs de billets des gens qui viennent d'ailleurs?
Oui, c'est 57% de nos clients qui proviennent de l'extérieur du Québec. Et étonnamment, c'est plus élevé qu'en 2019. En 2019, on était à 54% et là, on a augmenté, malgré le fait que lorsqu'on a mis les billets en vente, les restrictions sur les voyages étaient encore très présentes. Et donc, 57% de nos clients viennent de l'extérieur du Québec.
OK. Puis, strictement, les Américains, savez-vous?
Oui, c'est environ 28%.
Quand même. C'est. Je vais vous poser une question philosophique et générale, comme dirait l'autre. Je sais pas, mais il me semble que cette année, il y a un acharnement sur le Grand Prix. Il y a toujours des controverses sur la pollution puis la prostitution, puis c'est correct, là, la police fait sa job. Mais est-ce que vous avez la même perception que nous? Parce que quand je dis nous, Alain et moi, on a cette perception-là.
Ben oui, je l'ai, c'est sûr, cette perception-là. C'est drôle parce qu'elle vient toujours de la même place, là. Ça vient pas de n'importe où. C'est toujours juste le Journal de Montréal, pour pas le nommer, mais c'est sûr qu'on est... moi, j'étais un peu tanné de ça, là, parce que la prostitution, on en parle depuis des années et des années. Puis on a toujours l'impression que je suis le pimp numéro un à Montréal, alors que on est tout à fait contre ça. Puis on a participé à la commission parlementaire. Puis alors c'est sûr qu'on est un peu tanné de ça. Puis on est comme en compte. Hein, juste une idée, l'équipe permanente du Grand Prix, c'est 20 employés là, à l'année, dont 16 femmes. Fait que moi, je dis toujours que oui, je suis le président du Grand Prix, je suis le visage du Grand Prix, mais le Grand Prix est organisé par des femmes. Puis il n'y a personne dans mon équipe qui va me dire « Hey, on encourage la prostitution, là. » Fait que la réponse claire, là, c'est « Oui, je suis tanné. »
OK. Puis pourquoi on s'acharne cette année?
Ben, je sais pas, parce que c'est le retour, peut-être. Il y a plus de monde, hein. On va avoir... je pense qu'on va battre un record d'assistance cette année. On a plus de gens qui viennent de l'extérieur, donc... Est-ce que c'est pour ça qu'on en parle plus? Parce que moi, quand on a entrepris des démarches publiques en 2017, parce que pré-2017, on n'en faisait pas trop de cas au Grand Prix. En 2017, quand on s'est mis à parler d'exploitation sexuelle des mineurs, à ce moment-là, moi, je suis sorti publiquement et j'ai commencé à être actif avec des groupes de femmes, avec les policiers. Et on m'a dit que le Grand Prix, évidemment, c'est au niveau de la visibilité, c'est le plus gros événement sportif touristique au pays. Fait qu'on l'utilise. Mais on parle pas du congrès de dentistes du mois de novembre où il y a 5000 dentistes en congrès, où il y en a autant de prostitution, là. Alors, on utilise, je pense, l'image du Grand Prix par sa visibilité et par son rayonnement.
Il y a également, on a ajouté un nouveau Grand Prix cette année à Miami. Il y a Las Vegas qui va s'ajouter également l'an prochain. François, est-ce qu'on va modifier un peu le calendrier? Parce que la semaine dernière, les pilotes étaient en Azerbaïdjan et là, on est à Montréal cette semaine. Me semble qu'une fois que tu es en Amérique, est-ce qu'on pourrait pas regrouper les Grands Prix là, pour limiter les déplacements? Parce que tu as la question environnementale aussi qui revient sur la table.
Ouais, non, c'est deux questions qu'on discute là déjà fréquemment. Par contre, tu sais, on regarde Miami et nous. Miami était au mois de mai, je pense que c'était le 6, 7, 8 mai. Ça serait facile de dire, sur papier, c'est facile de dire on va regrouper Montréal et Miami. Mais là, tu fais quoi? Tu prends Montréal et tu le devances de 5 semaines en mai. T'sais, nous autres, on est un circuit temporaire, donc ça nous prend 3 mois, 3-4 mois avant ça pour faire le montage. On connaît les hivers montréalais. Miami, eux autres, ben ils ont tu peux pas le pousser parce que bon, il va faire très très chaud. La saison des Dolphins commence à l'automne, ils doivent libérer le site. T'sais, c'est complexe, mais en même temps, on est très très conscient qu'on doit réduire justement le nombre de voyages et de déplacements. Parce que quand ils sont partis de Bakou dimanche dernier, ben c'est 8 avions cargo là, des 777 qui sont partis de Bakou pour s'en venir à Montréal. Alors, ça fait partie de notre plan de conjointement avec la F1 des carboneutres en 2030. Puis c'est le genre d'éducation qu'on a pour garder le calendrier.
Parfait. Merci beaucoup, François Dumontier, donc qui est le big boss du Grand Prix. Est-ce que tu veux rester en studio? Il
faut aller une
pause pour la suite des choses. Oui, mais on a senti l'exaspération, je pense.
Oh boy, quand tu dis je suis pas le pimp numéro un en ville. Là.
Non, mais c'est-à-dire que c'est vrai que le tourisme a toujours une part. T'sais, la prostitution, ça n'a pas commencé hier et il y avait des petites annonces dans le journal de Montréal.
Non, quand tu as un événement d'envergure, c'est pas à croire que la Coupe du monde de soccer, c'est là, c'est tout du monde
non,
qui...
Non, mais ce que moi j'apprécie, c'est de voir la police de Montréal, de Longueuil, Laval... qui mènent des opérations. Je sais qu'il y en a, ils vont en avoir toute la fin de semaine, tu sais. Puis, comme je racontais, c'est une anecdote, mais quand je suis arrivé à la station ce matin par la place de l'hôtel Bonaventure, là...
Ah non, puis comptez-vous pas d'histoire.
Ça n'arrivait pas direct de l'Oratoire Saint-Joseph.
Il y a bien des gens, la majorité des gens qui viennent au Grand Prix de Montréal, c'est du monde... Ou bien ils sont sur le compte de dépenses, ou bien ils ont de l'argent en masse, là, eux autres. Là. Puis, tu sais, là, les histoires d'une bouteille de champagne à 1 000 $ là, ouais. Pour avoir une place à la terrasse, ça ne fatigue pas bien, bien.
Alors, voilà pour la discussion philosophique sur le Grand Prix. Stay with us. Stand by.
Mais c'est vrai que cette année, on a l'impression que c'est
bien.
Pire.
En tout cas, ça fesse un peu plus. Ouais. Mettons, là, c'est comme. On n'est pas tout seul à avoir perçu ça.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.